Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Brigitte Yoda.
Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire, le Burkina Faso occupe la deuxième place des pays les plus touchés par le terrorisme selon le classement de Global Terrorisme Index. La SELC ne doit pas être sélective. Pour Paul Sandouidi, ex-maire de Tansop Tenga, l'audit de l'armée devrait être systématique. Il appelle l'autorité de contrôle d'État à faire la lumière sur la gestion des fonds alloués à la Grande Muette. Le rapport Global Terrorisme Index 2023, publié le 14 mars dernier, classe le Burkina Faso en deuxième position des pays les plus touchés par les violences terroristes dans le monde, après l'Afghanistan. Le Burkina Faso et le Mali, quatrième de ce classement, ont, selon le rapport, des situations sécuritaires préoccupantes avec 52% de tous les décès dus au terrorisme en Afrique subsaharienne. Les deux pays ont enregistré des augmentations substantielles du terrorisme, avec des décès au Burkina Faso augmentant de 50% à 1135 décès et au Mali de 56% à 944 décès, indique le rapport GTI 2023. En 2022, le Global Terrorisme Index avait désigné le Burkina Faso comme le quatrième pays le plus affecté par l'hydre terroriste dans le monde. Et la corruption est l'autre plaie du Burkina qui nourrit le terrorisme. Nous parlons à présent de l'audit de la SELC sur la présidence du Faso, la primature et l'Assemblée nationale. Selon Youssouf Ouattara, directeur exécutif du Centre d'information, de formation et d'études sur le budget CIFOEB, la SELC est dans son droit d'auditer l'Assemblée nationale. Toutefois, celle-ci est allée au-delà de ses prérogatives. Youssouf Ouattara était sur le plateau de votre émission Dimanche Politique hier matin.
La Cour des comptes juge les comptes des comptables. Ça veut dire que quand vous finissez vos opérations en tant que comptable, vous envoyez votre documentation. La SELC va aller au-delà et interroger certaines dimensions, notamment la moralité de la dépense. Donc, la SELC va regarder les aspects de corruption, mais aussi les aspects de l'éthique et de la moralité de la dépense. Mais ce qu'on ne leur demande pas, ils ne doivent pas faire le contrôle sur l'opportunité de la dépense. Et sur ce contrôle-là, il y a certaines dimension, on peut dire que l'ASC est allé au-delà et est allé jusqu'à apprécier l'opportunité de certaines dépenses. Vous ne pouvez pas dire au gouvernement, vous pouvez faire comme ça, vous devez faire comme ça. Tout au plus, vous pouvez les conseiller en termes de recommandations. Pour terminer, c'est juste sur la question des 12 milliards pour la construction du siège de l'Assemblée nationale. Donc, il y a des provisions qui ont été faites dans une banque privée pour pouvoir disposer après des crédits et de l'argent nécessaire pour construire. Ça, ce n'est pas une irrégularité pour moi. Parce qu'aucun texte n'oblige l'Assemblée nationale à déposer cet argent, à faire un dépôt à terme pour contre des intérêts ou de mettre cet argent dans un compte d'épargne pour générer de l'intérêt.
À l'instant, Youssouf Ouattara, directeur exécutif du CIFOEB. Paul Sandouidi, ex-maire de Tansop Tenga, invité également à Dimanche Politique, dit craindre que la SELC ne soit instrumentalisée si l'on y prend garde. Où en est-on avec l'audit sur l'armée, s'interroge-t-il.
Nous n'avons pas connaissance de ce qui se passe dans l'armée. L'armée, depuis le début de la crise sécuritaire, à bénéficier des deniers publics à un niveau tel que aujourd'hui, on ne devrait plus être là à s'interroger pour savoir comment ils l'ont utilisé. L'audit devrait être systématique. Malheureusement, il a fallu que les gens se mettent à exiger pour que, bon, il semble que ça va se faire ou que c'est en train de se faire. En fait, mon problème, c'est qu'il ne faut pas qu'on ait une ASELC qui est sélective, qui est dirigée par les princes du moment. Ce que nous voulons, c'est une institution qui est au-dessus de la mêlée. L'impression que j'ai, c'est que, en tout cas, le régime tombé, le régime des civils déchus, oui, ça, il y a tout ce qu'il faut pour contrôler et au besoin même souvent, j'allais dire, traquer. Mais ceux qui sont là, ceux qui gèrent, ceux qui sont en place, ils gèrent également des deniers publics et ils ont le devoir de rendre compte. C'est à l'ASCLC de nous dire, de nous garantir qu'effectivement, par rapport à ceci et à cela, voilà ce que l'armée a reçu. Voilà. Mais sinon, quand vous voulez, juste parce que ceux-là sont partis, ben vous tirez à boulet rouge sur eux, ceux qui sont là, vous n'en dites rien. Ça pose un gros problème.
Selon le contrôleur d'État, le secteur de la sécurité a déjà été audité et les rapports sont en cours de finalisation. Quant à l'armée, l'audit est en cours de réalisation. Nous ferons une restitution officielle des différents rapports pour permettre aux citoyens d'être imprégnés des constatations faites en matière de gestion des finances publiques, a-t-il dit. Philippe Nihon s'exprimait à l'issue d'une audience à l'Assemblée nationale le 15 mars dernier. Le groupe Presse.com a organisé une soirée de retrouvailles ce week-end au profit des journalistes et communicateurs placés sous le signe d'une synergie d'action pour le professionnalisme et la solidarité. Cette soirée de retrouvailles suivie d'échanges avait pour objectif d'améliorer sur le plan professionnel les rapports entre journalistes et communicants. Écoutez Gildas Ouedraogo, administrateur général du groupe Presse.com et Yassin Sanou, rédacteur en chef à Studio Yafa.
Nous travaillons pour promouvoir le professionnalisme et la solidarité dans ces deux corps de métier. C'est vrai qu'on ne fait pas forcément le même boulot, mais on a cette obligation-là d'aller ensemble pour pouvoir décrocher des résultats conséquents. Et au regard de la situation sécuritaire du pays, nous avons décidé de nous retrouver pour pouvoir aborder des thématiques qui vont inciter ces journalistes et communicateurs à aller dans le sens du développement, aller dans le sens de l'accompagnement des nouvelles autorités qui ont engager une dynamique qui est de sauver notre pays de cette crise sécuritaire.
Vous savez que le débat se pose aujourd'hui, notamment pour nous journalistes, avec la situation sécuritaire, avec tout le contexte national, quel est le positionnement que nous devons avoir? Est-ce que les journalistes doivent être, comme ce qu'on dit aujourd'hui, des journalistes patriotes? Est-ce qu'ils doivent être des communicateurs? Quelle est la ligne qui existe entre le journaliste et le communicateur? C'est vraiment un thème d'actualité. C'était très intéressant d'avoir les deux face à face, un journaliste et un communicateur qui sont tous les deux aguerris. Ça nous permet, nous, de nous faire des idées un peu par rapport à notre positionnement.
Propos recueillis par Jean-Baptiste Ramdé dans le cadre de la commémoration en différé de la Journée internationale de la femme. Le 8 mars, la Ligue islamique pour la paix au Faso a réuni hier dimanche des femmes des différents médias du Burkina et celles des forces de défense et de sécurité. Une rencontre d'échange qui favorisera la cohésion entre les femmes journalistes et femmes FDS pour un Burkina de paix. C'est en tout cas le vœu d'Ousseni Tapsoba, le président de la Ligue islamique pour la paix au Faso.
Bon, comme vous le savez, ce n'est pas la première fois qu'on se réunit avec les femmes journalistes. Ça fait maintenant plus de 5 ans. Chaque année, à la journée internationale du 8 mars, on essaie de faire ce qu'on peut faire avec les dames journalistes. Donc depuis 5 ans, on ne fait que les accompagner pour les encourager. Bien sûr, par contre, compte tenu du contexte d'aujourd'hui, et vu le Burkina Faso, on a pensé qu'il fallait associer les femmes FDS, en tout cas pour les encourager, parce que vous savez très bien le travail qu'ils sont en train d'avoir sur le terrain. Donc il était quand même nécessaire qu'on puisse les associer et faire la commémoration ensemble avec les femmes journalistes. Bon, on s'est dit que vous voyez, entre les femmes FDS et puis les journalistes femmes, il doit y avoir une communion. Il faudrait que chacune de vous puisse partager l'expérience vécue. Là, comme ça, s'il y a des corrections à faire, vous corrigez pour améliorer les conditions de vie de ces différentes femmes. Non, tout ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait vraiment la symbiose, la cohésion entre les femmes journalistes et les femmes FDS pour un Burkina de paix.
Célébration toujours en différé du 8 mars, l'ONG PAX a organisé une table ronde samedi à Ouagadougou pour montrer comment la femme peut contribuer à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale au Burkina Faso. Le point avec Nadège Yabré et Ibrahim Bayili.
La rencontre a connu la participation des communautés religieuses ainsi que de plusieurs associations de femmes issues des régions les plus touchées par le terrorisme. Les échanges ont porté sur les solutions que les femmes peuvent apporter pour la construction de la paix au Burkina. Pour la présidente de l'Association féminine pour le développement du Burkina, Bibata Ouedraogo, une bonne éducation des enfants par les femmes peut contribuer au développement de la nation.
Nous, le 8 mars, c'est une journée où nous devons nous retrouver pour réfléchir, voir comment nous pouvons résoudre les préoccupations des femmes. Sans la paix, nous ne pouvons pas agir. Et pourtant, nous sommes des associations qui ont besoin de cette paix-là pour pouvoir travailler.
Placé sous le thème « Quelle implication, contribution des femmes au processus de paix au Burkina ?», il ressort que les femmes ont un important rôle à jouer. Elles peuvent intervenir au niveau des actions de prévention et de gestion des conflits et ainsi qu'au niveau des réformes ou actions à entreprendre pour consolider les acquis. Roger Minungu est le directeur pays du PACS.
Nous avons espéré qu'à l'issue des discussions et des travaux, les femmes vont proposer des solutions, des recommandations fortes et adaptées qui puissent contribuer efficacement au retour à la paix dans notre pays. Et nous allons aussi y veiller parce que nous avons l'ambition d'accompagner tous les efforts qui contribuent au processus de paix dans les pays qui sont confrontés aux crises.
La mission de PACS est de renforcer la sécurité humaine et contribuer à la construction d'une paix inclusive et durable.
On parle de désenclavement dans la suite de ce journal. Le ministre en charge des infrastructures était vendredi dernier dans la région des Hauts-Bassins pour une visite du projet de sauvegarde du patrimoine routier. Ce projet concerne les provinces du Houé et du Kénédougou. Avec sa délégation ainsi que les autorités locales et l'équipe chargée du contrôle et de suivi du projet, le ministre Adama Luc Sorgho a pu constater que le niveau d'avancement des travaux de réaménagement de la RN1 et la RN8 se déroulent comme prévu. Tous ont jugé le travail satisfaisant. On fait le point avec Moumouni Tamboura.
Ici, la RN8 est dans un état avancé dégénéré. Nous y avons serpenté, témoin de l'étroitesse et de la dégradation. C'est sur cette voirie que le ministre Adama Luc Sorgho et sa délégation se sont concentrés. Intersection de la RN1 de Ouagadougou et de la RN8 dans la commune de Bobo Dioulasso. Compte tenu du tronçon de 76 km de Bobo Orodara, le ministre a jugé satisfaisante l'ouverture intérieure du pays financée par le Fonds spécial routier.
Et nous sommes actuellement en discussion avec certains bailleurs de fonds, notamment la BID, la BAD et la Banque mondiale, qui en tout cas sont prêts pour la réhabilitation, pour financer la réhabilitation de ces tronçons-là.
La valeur totale du projet est d'environ 12,4 milliards de francs CFA, selon le personnel technique Jean-Marie Toué. L'unité de construction est responsable de l'élargissement de la route, 7 mètres en dehors de la zone urbaine et 8 mètres en zone urbaine. Le délai de réalisation est de 18 mois, hors jour de pluie. Selon le chef du projet Jean-Marie Toué, plusieurs activités sont prévues à bord de la RN8 Bobo Orodara.
Lorsqu'on applique le coefficient d'agressivité de la route qui est de 2,32, on se retrouve avec près de 800 poids lourds par jour. Donc ça fait que c'est une route qui est très sollicitée. Et sur tout le tronçon de la CEI2A, tout le linéaire de la CEI2A jusqu'à la frontière du Niger, ce qui a été prévu et ce qui a été fait jusque-là comme travaux de réhabilitation et de renforcement, c'est des structures assez lourdes avec des couches de, bas, des couches de fondation, soit en sol ciment, soit en lithostabilisation.
Des retards se sont produits en raison de la non-implication des directeurs régionaux dans les questions d'infrastructure. D'autre part, la visite des lieux a été couronnée par la visite des directeurs régionaux qui se sont déclarés fiers de leur participation et le ministre a assuré dès ce moment qu'il contribue à la réussite du projet. Karim Traoré est le directeur régional par intérim.
Vraiment, le personnel vraiment était content de la venue pour échanger avec quand même. On sent qu'on a été considéré quand même par.
Des formations en suivi en matière d'infrastructure et aussi en matière de passation de marché sont dispensées aux différents directeurs régionaux qui étaient inactifs durant 2 ans en vue de renforcer la fluidité de la circulation et assurer la sécurité routière de Bobo Dioulasso. Ils sont désormais responsables de la qualité des chaussées, selon le ministre Adama Luc Sorgho.
Et la société immobilière Anaï a offert un château d'eau aux riverains de Bonheurville dans l'arrondissement 7 de la commune de Bobo Dioulasso. Une action citoyenne qui consiste à améliorer leurs conditions de vie et résoudre un tant soit peu les pénuries d'eau auxquelles sont confrontées ces populations. La cérémonie d'inauguration du dit château a eu lieu le jeudi 16 mars dernier. Le reportage est de Draman Sidibé.
C'est dans une ambiance bon enfant que ce château d'eau du quartier Bonheurville de Bobo Dioulasso a été inauguré. Une initiative qui rentre dans le cadre de l'aménagement du site Anaï, à en croire Patous Bassempouré, directeur chargé de la gestion immobilière et foncière de la société.
Il faut dire que c'est dans le cadre donc de l'aménagement générale de notre site que nous avons donc bien voulu mettre à disposition donc la population cet édifice. Vous savez bien que la question de l'eau est une question fondamentale et l'eau c'est la vie, donc il était de bon temps pour nous de mettre cet édifice donc au bénéfice donc de la population. Il y a le forage, comme vous le voyez, il y a aussi des équipements annexes. L'élément fondamental donc c'est le forage. Il y a des plaques solaires, il y a des robinets et tout ça donc composé donc s'élève autour de 8 500 000. Nous allons donc remettre donc l'édifice donc à la population. C'est une donation qui appartient donc à la population de prendre donc toutes les dispositions qui s'y est pour l'entretenir.
Un geste bien apprécié par le président de la délégation spéciale de l'arrondissement numéro 7 de Bobo. Il en appelle à un usage responsable. Souleymane Sanou.
C'était les cris de cœur permanent de la population qui était vraiment en quête d'eau, surtout au niveau de nos zones non loties et notamment les zones reculées du quartier Belleville qui manquaient vraiment de façon criarde d'eau. Donc c'est vraiment avec beaucoup de satisfaction que nous accueillons aujourd'hui ce geste qui vient soulager en tout cas les préoccupations en eau, en tout cas de cette population-là. C'est vraiment les inviter à l'entretien permanent, en tout cas de ce joyau qui vient aujourd'hui enlever, comme on le dit chez nous, une grosse épine au pied, en tout cas de cette population.
Anaï fait partie du Labour Group. Elle fait la promotion de la gestion immobilière et foncière. Elle fait aussi les routes et les aménagements et enfin évolue dans les énergies renouvelables. Bobo, Dramane Sidibé pour la Radio Omega.
Radio Omega, l'info en direct.